à la question « Qui êtes-vous ?» Une question qui peut s'appeler, qu'on peut trouver très simple au prime abord, mais qui ne l'est pas tant que ça. Si quelqu'un vous demandait, si quelqu'un allait me demander « Qui êtes-vous ? Qui es-tu ?» Je pourrais répondre « Laurent Wagon ». La personne pourrait me dire « Non, ça c'est seulement ton nom. Qui es-tu ?» Je pourrais lui dire « Ben, je suis pasteur. » Et là, il me dirait « Mais non, ça c'est ta profession. Qui es-tu ? » « Ben, je suis français. » « Ok, ça c'est ta nationalité. Qui es-tu ? » « Je suis évangélique, pentecôtiste, ADD. » Non, ça c'est ta dénomination. Qui es-tu ? Je pourrais aussi dire que je mesure 1m80. Ah, vous allez tout savoir de moi au fur et à mesure. Hein. Et que je pèse... Prenez pas de notes là. Et que je pèse un peu plus de 70 kilos. Non, en fait, beaucoup plus que 70 kilos. Voyez-vous, nous avons tendance à nous identifier bien souvent par notre apparence ou par notre métier. Et quand il nous est demandé à nous chrétiens, même parfois, de nous identifier par rapport à notre foi, nous parlons généralement de nos positions doctrinales. Nous allons dire, ben, je suis protestant, je suis évangélique, je suis calviniste. Il y en a qui savent ce que ça veut dire, si je suis calviniste ? Oh, très bien. Je suis charismatique. Voilà, par exemple. Quoique ça, non, ça c'est l'aspect d'après, c'est la dénomination. On peut se définir par notre dénomination. Tu as raison, baptiste, mennonite, réformé, pentecôtiste, ça c'est la dénomination. Ou parfois, les chrétiens vont se définir par leur fonction dans l'Église. Je suis moniteur de l'école du dimanche. Je suis membre du conseil d'administration. Je suis responsable de la louange. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce que mon identité est déterminée par ce que je fais ou est-ce que mon identité détermine ce que je fais? Et voilà une question importante, surtout par rapport à la maturité chrétienne. Et dans cette nouvelle série de messages que je suis content d'entamer avec vous en ce dimanche, nous allons, qui est intitulé « Marcher en nouveauté de vie », nous allons étudier ensemble des principes de base de la maturité chrétienne. Et nous allons découvrir au cours des prochains dimanches, dès ce dimanche et des prochains dimanches, nous allons découvrir qui nous sommes en Christ et comment marcher par la foi, comment vivre par la foi. Parce que pour être réellement libérés de notre passé, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Beaucoup de personnes, et même de chrétiens, veulent être libérés du poids du passé. Mais ils doivent découvrir qu'ils sont en Christ. Nous allons, dans cette série de messages aussi, découvrir comment marcher selon l'Esprit et être sensible aux directives de l'Esprit. Nous allons voir la nature du combat pour nos pensées. Et nous apprendrons pourquoi ces pensées doivent être transformées pour permettre la croissance spirituelle. Certains ne grandissent pas spirituellement ou ne naissent pas spirituellement parce qu'il y a des blocages là. Nous allons étudier ensemble également et comprendre comment maîtriser nos émotions et être libérés des traumatismes émotionnels du passé par la foi et le pardon. Voyez-vous, notre croissance dans la marche chrétienne sera, oui, le résultat de l'action du temps, des pressions, des épreuves, des défis. Et là, plusieurs pourraient me dire, bah, ça, je connais bien, pasteur. Ça, je connais bien. Je n'ai pas trop besoin d'en parler. Les épreuves, la pression, l'action du temps, les défis, ça, on en a. Et vous avez raison, et je vous comprends, moi aussi, j'en ai. Mais c'est aussi la croissance dans la marche chrétienne, c'est aussi le résultat de la connaissance de la parole de Dieu, de la compréhension de notre identité en Christ et de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et le cocktail de tous ces ingrédients, le temps, les pressions, les épreuves, les défis, la connaissance de la parole, la compréhension de notre identité, la présence du Saint-Esprit, le cocktail de tous ces ingrédients va nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Le message que j'ai, ce premier message, je l'ai intitulé ce matin « Qui sommes-nous ? » devons partir ensemble sur de bonnes bases pour évoluer dans cette série de messages. Devons comprendre qui nous sommes depuis l'origine, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes arrivés à là où nous en sommes arrivés. Et quelle est la solution, quelle est l'issue pour chacun d'entre nous et pour l'humanité. Voyez-vous, si je vous dis, tiens, que penses-tu de cet homme bien musclé, diplômé d'une école supérieure de commerce, par exemple, qui est aujourd'hui cadre sup dans une banque, et qui roule avec le dernier 4x4, ou que penses-tu de cette belle jeune fille, taille mannequin, dents bien blanches, c'est très tendance, hein, je vous ai marqué, musicienne de talent, avec le dernier iPhone, et qui va rentrer dans une grande université. Que pensez-vous de ces deux personnages, d'un homme d'un côté, d'une femme de l'autre? Plusieurs me diraient, ils semblent avoir réussi dans la vie. Ça semble être des personnes épanouies, non? Et voyez-vous, dans la façon de penser et de se comporter dans notre société, nous croyons que si nous paraissons beaux, ou si nous agissons bien, ou si nous jouissons d'une certaine considération sociale, notre vie intérieure sera aussi équilibrée. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les apparences extérieures, les réalisations ou le statut social ne reflètent pas nécessairement ni ne produisent pas la paix et la maturité intérieure. Dans son livre « Le sentiment d'être quelqu'un », le théologien Maurice Wagner explique ses faux raisonnements par des équations assez simples mais que nous avons tendance à accepter. Et j'aimerais vous présenter quelques exemples de ce que nous pensons, quand je dis nous pensons, l'être humain en général, et notamment dans notre société actuelle. Une première équation, la beauté extérieure plus l'admiration qu'elle apporte, une personne épanouie. Pourquoi il y a autant de personnes qui sont dans les clubs de gym? Pourquoi il y a autant d'hommes qui veulent avoir des biceps, des abdos, une taille, même parfois il y en a qui a 50-60 ans, sont dans les salles de gym. Hein. Ils poussent la fonte, les gars. Il n'y a pas que des jeunes qui font ça. Une autre équation, des performances de qualité plus des réussites égale une personne épanouie. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Hein. Et même nous, parfois, on fait faire attention, on se laisse tellement influencer que on pousse nos enfants à réussir, à croire que si tu réussis bien à l'école, tu seras une personne épanouie. Si tu as des bonnes notes et des très bonnes notes, alors tu vas réussir, parce que tu auras un rang social. Mais attention à ces raisonnements. Le statut social, autre équation, plus la considération, égale une personne épanouie. Et nous avons tendance à croire que le côté négatif de la formule « succès égale épanouissement ». En pensant que si quelqu'un n'a rien, eh bien, il n'a pas d'espoir de bonheur. Par exemple, supposons qu'une fille dans ton école, là je parle peut-être à des jeunes, mais ça peut être une collègue de travail, mais une fille dans ton école a les cheveux gras. Ça peut arriver. Un corps sans forme. Là, on se parle vrai. Hein. Parce que je vous dis, vous le savez, la beauté plastique, super important. Hein. Faut être calibré, comme les tomates. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous les légumes, ils doivent être calibrés. Et presque les gens doivent être calibrés. Imagine une fille dans ton école ou à ton travail, les cheveux gras, un corps sans forme, elle trébuche quand elle marche, elle bégaye quand elle parle. Elle a quelques boutons, elle n'a pas des très bonnes notes à l'école. Et la question c'est, est-ce qu'elle a des chances d'être heureuse dans la vie? A-t-elle des chances d'être heureuse dans la vie? Dans ce royaume terrestre où la plupart des gens vivent à un niveau purement extérieur, on pourrait dire non. Et allez, écoutez vos enfants dans les écoles, vous allez voir comment ils sélectionnent les gens. Et celle-là, là, elle n'a pas de chance, hein, plam. Elle est sur le côté. Hein. Parce que le bonheur est associé à la beauté physique, aux relations avec les gens importants. un bon emploi, un compte en banque bien fourni. Et une vie sans ses avantages, pour certains, est considérée sans espoir. Mais dans le royaume de Dieu, tout le monde a exactement les mêmes chances d'avoir une vie qui a un sens. Pourquoi ? Parce que l'équilibre et le sens de la vie ne découlent pas de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. La seule équation d'identité qui marche dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Alors, je sais que certains qui réfléchissent beaucoup, il y a des gens cérébraux avec nous dans l'église aussi, je dis des choses et là, clac, clac, ils pensent aussi déjà à autre chose, ils enchaînent d'autres idées, vous avez raison, ils pourraient me dire, mais pasteur, si notre identité en Christ est la clé de l'équilibre, pourquoi tant de chrétiens ont-ils du mal à reconnaître leur valeur personnelle et à grandir spirituellement? Et vous auriez raison de me poser cette question. Parce que je vous avoue que je me la pose. Et c'est pour ça qu'on fait cette série de messages. Que je rencontre dans les entretiens que j'ai avec des chrétiens ici ou à l'extérieur, ce type de questionnement. Pourquoi certains chrétiens qui ont 5 ou 10 ou 15 ou 20 ans de marche ont du mal à grandir spirituellement, ont du mal à reconnaître leur valeur personnelle? J'aimerais te dire, c'est parce que notre identité réelle en Christ, elle est attaquée, elle est déformée par le grand menteur lui-même. Voyez-vous, un jour, un pasteur qui conseillait une chrétienne qui était victime d'oppression satanique lui a demandé « Qui es-tu ?» Elle a répondu « Je suis le mal. » Le pasteur a dit « Tu n'es pas le mal. Comment un enfant de Dieu peut être le mal ? Est-ce que tu te vois ainsi ?» Et elle a dit « Oui. » Voyez-vous, elle avait peut-être commis le mal, mais elle n'était certainement pas le mal. Elle a basé son identité sur un mauvais raisonnement. Elle permettait aux accusations de Satan contre son comportement d'influencer la perception de son identité plutôt que de permettre à son identité d'enfant de Dieu en Christ d'influencer son comportement. Malheureusement, un grand nombre de chrétiens tombent dans le même piège. Nous échouons et nous nous considérons comme des échecs. Ce qui nous pousse à échouer davantage. Nous péchons et nous nous considérons donc comme des pécheurs, ce qui nous fait pécher encore davantage. Nous sommes tombés dans le piège des équations fausses du diable. Et nous croyons donc que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Ces faux raisonnements nous conduisent dans une spirale de désespoir et de défaite. Et pour bien comprendre, mes amis, qui nous sommes réellement, nous devons réaliser quelle identité nous avons héritée d'Adam lors de la création. Alors on va revenir, pour le début de cette série de messages, au livre des commencements. On va avoir besoin de comprendre, peut-être avec un regard nouveau, peut-être avec des paroles différentes de ce que vous avez déjà entendu jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le début ? Parce que si certains pensent que l'histoire dans la Genèse de Adam et Ève est un mythe, certains disent ça, disent que cette histoire est un mythe. C'était pour ça qu'il fallait bien commencer le livre, alors on a trouvé une histoire pas trop mal là, pour commencer. Non, moi je ne crois pas que c'est un mythe. C'est une réalité qui a été vécue, que Dieu nous a laissée pour nous enseigner, pour nous faire comprendre l'origine de l'humanité et de ce qui s'est passé. Lorsque Adam est né, me posez pas la question de savoir s'il avait un nombril ou pas, ça c'est pas ça le plus important. C'est-à-dire quand Dieu a insufflé le souffle de vie dans ses narines, toutes les parties de son être se sont éveillées à la vie. Et on dit que Adam était totalement vivant physiquement. Je m'explique. Il était totalement vivant parce qu'il avait un corps physique qui réagissait à son environnement avec les cinq sens que nous connaissons encore aujourd'hui. D'accord ? Il avait non seulement un corps physique, mais il avait aussi un être intérieur. C'est-à-dire, qui était créé d'ailleurs à l'image de Dieu, comme le dit Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il avait un être intérieur. C'est-à-dire qu'on trouve dans Adam, le premier homme, la pensée. C'est-à-dire cette capacité de réfléchir. Du système cognitif. La pensée. Il y avait aussi dans son être intérieur des émotions qui nous permettent de ressentir. Et il y avait aussi la volonté dans l'être intérieur de Adam. C'est-à-dire cette capacité de choisir. Donc Adam était totalement vivant physiquement, mais aussi vivant spirituellement. C'est-à-dire que son âme ou son esprit, là je ne rentrerai pas dans le détail, âme, esprit, son âme, son esprit, on va dire que c'est synonyme, son âme, son esprit étaient unis à Dieu. Donc Adam, totalement vivant physiquement et totalement vivant spirituellement. Et lors de la création, Adam a non seulement reçu ses capacités physiques, spirituelles, mais aussi un rôle d'autorité. Écoutez bien chaque mot que je vais vous dire, parce que vous allez comprendre ensuite ce qui s'est passé. Il avait un rôle d'autorité, c'est-à-dire, vous vous souvenez, dans Genèse, il avait cette capacité, Dieu lui avait donné cette capacité de dominer sur toutes les créatures. Donc une autorité, capacité de dominer. Mais il avait aussi connu, il avait également un sentiment de sécurité et de confiance. Tous ses besoins étaient satisfaits, nous dit la Genèse. Il pouvait manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement dans la présence de Dieu. Il ne manquait de rien. Dans le jardin, Adam connaissait aussi un sentiment profond d'appartenance. D'appartenance. Il vivait dans une communion intime, personnel avec Dieu. Et quand Dieu a créé Ève, il a établi la première communauté humaine, parce que la Bible et Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que nous soyons seuls. L'isolement peut conduire à la solitude. Et l'antidote donné par Dieu à la solitude, c'est l'intimité. C'est-à-dire des relations ouvertes, des relations partagées, des relations constructives, l'un avec l'autre. Et je crois que Dieu a donné Ève à Adam pour enrichir son expérience d'appartenance, d'une intimité avec Dieu, mais aussi d'une intimité humaine, de relations humaines. Malheureusement, dans le cadre idyllique du Jardin d'Éden, ce cadre a été brisé. Et là, nous arrivons dans Genèse chapitre 3, qui raconte une triste histoire. Celle de la relation d'Adam et Ève qui a été rompue avec Dieu à cause de la désobéissance, qu'on appelle ou qu'on nomme péché. Mais derrière le mot péché, c'est la désobéissance. Et les effets de la chute de l'homme vont être radicaux, immédiats, et ça va toucher tous les membres ultérieurs de la race humaine. Il va y avoir une répercussion, vous voyez, comme... Les dés parfois qui sont posés, ou les dominos, ou les sucres qu'on pose, on en touche un là, puis pff, tout tombe. Adam et Ève ont désobéi, ont péché, ont chuté, et toute la race humaine a été contaminée. Jusqu'à toi, jusqu'à moi aujourd'hui. Et tout comme nous avons hérité la vie physique de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, nous avons hérité aussi la mort spirituelle. Et ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que tout être humain qui entre dans le monde est vivant physiquement, mais il est mort spirituellement. Il est séparé de Dieu. Nous devons bien comprendre cela. Nous naissons dans ce monde, nous sommes vivants physiquement, mais nous sommes morts spirituellement. Cette chute a eu des conséquences sur la pensée. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu nous a dotés d'un être intérieur, pensée, émotion, volonté. Et cette chute a eu des conséquences sur la pensée. Adam et Ève ont perdu leur juste perception de la réalité. Nous lisons dans Genèse, chapitre 3, versets 7 et 8, qu'ils essayèrent de se cacher de Dieu. Cela ne révèle-t-il pas une mauvaise compréhension de la personne de Dieu ? Comment peut-on se cacher de Dieu ? Des humains, encore aujourd'hui, pensent qu'ils sont invisibles, qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Ils peuvent cacher pendant un temps, parfois longtemps, ce qu'ils font des hommes. C'est vrai. Mais de Dieu, la Bible dit, tout est à nu. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Dieu voit tout. Dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta volonté, Dieu voit tout. Mais une des conséquences, c'est qu'ils se sont cachés, ils ont essayé de se cacher de Dieu. En premier lieu, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu, écoutez bien, ils ont perdu la vraie connaissance de Dieu. Dans le plan originel de Dieu, la connaissance était relationnelle. Dieu a fait l'homme à son image parce qu'il désirait une relation. Il a créé Ève pour qu'Adam ait une relation. Donc, dans le plan originel, la connaissance de Dieu était relationnelle. Connaître quelqu'un impliquait une relation personnelle et intime. Avant la chute, Adam et Ève connaissaient Dieu par leur proximité avec lui. Mais au moment où ils ont péché, Adam et Ève ont perdu ce lien étroit avec Dieu. Et la connaissance de Dieu, ils l'ont perdu aussi, qui était la base de leur relation avec lui. Vous et moi, nous avons ensuite hérité, comme le dit Paul, de la pensée obscurcie d'Adam et Ève. L'intelligence de l'homme a été obscurcie. Notre cœur endurci. Voilà ce que nous avons hérité. Conséquences sur la pensée, mais conséquences aussi émotionnelles de la chute. Nous avons été affectés, Adam et Ève ont été affectés jusqu'à nous, jusqu'à l'humanité qui nous entoure, affectés dans notre manière de penser, affectés dans nos émotions. D'abord, la Bible dit, nous sommes devenus craintifs et anxieux. Une des premières émotions qui est apparue après la chute, c'est la peur. Genèse 3:10. Allez voir, allez lire, allez relire. La peur est le résultat de la chute. Et si la peur domine ta vie, c'est pas la foi qui domine ta vie. S'il y a de la peur aujourd'hui dans ta vie, ça peut arriver, pose-toi des questions par rapport à ta foi. Une autre conséquence émotionnelle du péché, non seulement il y a eu la peur, mais il y a aussi eu la honte et la culpabilité. Combien de nos contemporains, jeunes ou moins jeunes, sont aujourd'hui dans la honte et la culpabilité, sont attaqués, sombres sous le poids de la honte et de la culpabilité. Voyez-vous, avant qu'Adam et Ève ne désobéissent à Dieu, ils étaient nus, nous dit la Bible, et ils n'en avaient pas honte. Je ne dis pas que les chrétiens doivent retrouver une forme de nudisme. Mais il y en a qui pensent ça, c'est une tendance. Dieu les avait créés pour être des êtres sexués. Leur activité sexuelle était sainte. Je n'ai pas peur de parler des vraies choses. Ce sont des choses de la Bible. La sexualité fait partie de la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir honte à cacher ces choses. Oh là là, la sexualité, il ne faut pas en parler à l'église. Qu'est-ce que tu fais, pasteur ? Mais Dieu en parle. Pourquoi moi, j'en cacherai ? Il faut en parler correctement, sainement. Mais nous devons bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui, la sexualité est devenue parfois quelque chose de honteux, de sale ? Parce que nous devons comprendre ce qui s'est passé depuis les origines. Mais après avoir péché, voyez-vous, ils avaient honte d'être nus et ils devaient se couvrir. Genèse 3, 7. Mais un petit peu plus profondément, de nombreuses personnes aujourd'hui cachent leur être intérieur de peur que les autres découvrent ce qu'elles sont vraiment. Beaucoup de personnes aujourd'hui autour de nous, et même parfois au milieu de nous, nous cachons notre être intérieur de peur. La peur que que les autres découvrent ce que nous sommes vraiment. Et voyez-vous, à partir de là, l'humanité a connu la dépression. On entend beaucoup parler de la dépression, mais ce n'est pas nouveau. C'est juste un phénomène qui s'amplifie. Mais depuis la chute, l'humanité a connu la dépression et la colère. L'Éternel dit à Caïn, donc premiers enfants de Adam et Ève, de l'humanité, dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu, Caïn? Dépression et colère. Pourquoi Caïn était-il furieux et déprimé? Et vous, c'est pas quelque chose du 21e siècle, ça a commencé dès le départ. Parce qu'il n'avait pas fait le bien. Et je crois que Dieu pose ici un principe qui sera répété dans toute la Bible. Écoutez-moi bien. Les sentiments ne produisent pas un bon comportement. Mais le comportement apporte les bons sentiments. Je répète. Les sentiments ne produisent pas un bon comportement. Mais un bon comportement, le comportement, apporte de bons sentiments. Il y a des milliers de choses que nous n'avons pas envie de faire, n'est-ce pas? Vous et moi. Mais nous les faisons. Je n'ai jamais trop envie d'aller à l'hôpital, je vais vous dire les choses. Je n'ai jamais trop envie d'aller à l'hôpital, visiter les malades. Dès que je franchis la porte, l'odeur, elle seule, l'odeur de l'hôpital, enlève tous les sentiments positifs que je pourrais avoir. D'accord? Sentiments. Mais je me sens bien toujours par la suite. Je suis content d'y avoir été. Les bons sentiments suivent les bons comportements. Les bons sentiments suivent les bons comportements. Donc le péché ou la chute d'Adam et Ève a eu des conséquences, des répercussions sur leurs pensées, sur leurs émotions, mais aussi sur leur volonté. Vous rendez-vous compte que dans le jardin d'Éden, ils ne pouvaient faire qu'un seul mauvais choix. Adam et Ève, un seul mauvais choix. Tout ce qu'ils voulaient faire était bon, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Ils avaient la possibilité de faire une multitude de choix, de bons choix, et un seul mauvais choix. Un seul. Et en fin de compte, malgré la multitude de bons choix possibles, ils ont fait ce seul mauvais choix. Eh bien, nous aussi, dans notre vie, chaque jour, nous devons faire face à une multitude de bons ou de mauvais choix. Nous pouvons choisir de mener notre vie avec Dieu ou sans Dieu. C'est un choix. Moi, je considère que celui qui décide de vivre sa vie sans Dieu ne fait pas le bon choix. Mais c'est son choix. Nous pouvons choisir de consulter Dieu ou de décider par nous-mêmes. Combien de fois nous agissons sans forcément consulter Dieu? Et après, nous nous en mordons les doigts. Mais c'est un choix. Nous pouvons consulter Dieu ou décider d'agir par nous-mêmes. Nous pouvons résister aux tentations ou y succomber. C'est un choix. C'est un choix. Nous pouvons décider de faire le bien ou pas. Nous pouvons choisir de marcher selon la chair ou selon l'esprit. Nous nous rencontrons, voyez-vous, vous et moi, tous les jours, d'innombrables choix. Et parfois, nous aussi, nous faisons des mauvais choix. Un autre effet du péché à long terme, vous allez voir et vous allez, j'espère, mieux comprendre là où Dieu veut nous amener, c'est que les privilèges qu'avait l'homme avant la chute sont devenus, après la chute, des besoins criants. Je m'explique. L'appartenance dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sentiment d'appartenance que Adam avait, que Adam et Ève avaient, dans cette communion intime, personnelle, d'être dans la présence de Dieu, cette appartenance extraordinaire qu'ils avaient, a été remplacée après la chute par le rejet. Par le rejet. Et c'est comme ça que ça a affecté toute l'humanité, jusqu'à vous, jusqu'à moi, jusqu'à aujourd'hui, nos contemporains. Donc, nous avons besoin de sentir que nous appartenons à quelqu'un. Ce qui était un privilège est devenu un besoin criant. Nous avons besoin d'appartenir à quelqu'un. Depuis que le péché d'Adam et Ève les a éloignés de Dieu et a introduit des conflits dans les relations humaines, nous connaissons un besoin profond d'appartenir à quelqu'un. Et c'est Dieu qui va faire cette annonce au monde par l'intermédiaire de son disciple, de son apôtre, de Jean. La vraie connaissance de Dieu, possible uniquement par une relation intime avec Dieu, Jean va dire, est désormais accessible au monde par Dieu fait chair, Jésus-Christ. Cette connaissance que nous avons perdue de Dieu peut être retrouvée, peut être restaurée, peut être rétablie, cette vraie connaissance de Dieu, mais uniquement par une relation intime avec Dieu. Et cela est possible, accessible à toi, à moi, par Dieu fait chair, ou la parole fait chair, Jésus-Christ. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu en Christ est à la base de notre identité. Et notre besoin d'appartenance est comblé par notre relation avec Jésus-Christ. Notre besoin d'appartenance à Dieu est comblé par notre relation avec Jésus-Christ. Mais pas seulement. Nous avons aussi besoin d'appartenir à d'autres. Ce que j'appellerais ici la famille de Dieu. Dieu nous a mis dans un monde avec d'autres humains. Tu t'en es aperçu. Tu n'es pas seul sur la terre. Il y a des gens autour de toi, des hommes, des femmes, avec des arrière-plans, des histoires différentes de la tienne. Et voyez-vous, si notre Église, on va parler de l'Église locale, on peut le dire au niveau de l'Église de Jésus-Christ en général, mais prenons-nous Émile, si notre Église ne constitue pas un cadre pour une communion fraternelle légitime entre ses membres, les personnes la chercheront ailleurs. Ils iront voir ailleurs parce qu'ils ont besoin d'appartenance. Dit autrement, ils ont besoin d'amis. Nous avons besoin de Jésus-Christ, notre meilleur ami, mais ensuite on a besoin dans la vie d'amis, besoin de relations d'appartenance avec d'autres humains. L'union spirituelle dans la communion fraternelle qui est appelée koinonia dans le Nouveau Testament, n'est pas simplement une bonne chose que l'Église devrait fournir, mais une chose indispensable que l'Église doit fournir. À Mantes-la-Jolie, nous allons continuer à œuvrer ensemble pour développer la koinonia, notre relation les uns avec les autres, qu'elle soit encore de meilleure qualité que ce que nous connaissons avec les enfants, avec les ados, entre les jeunes, les moins jeunes, les parents, les célibataires, les blancs, les noirs. Ici, il doit y avoir un modèle de koinonia, de relations fraternelles, de vraies relations. Que personne ne se sente rejeté, mais accepté. Deuxième conséquence ou effet du péché à long terme, de ce que l'homme avait comme un privilège et qui est devenu un besoin criant, c'est que l'innocence a été remplacée par la culpabilité et la honte. Nous avons donc besoin que notre valeur personnelle soit rétablie. Nous avons besoin, tu as besoin, que ta valeur personnelle soit rétablie. Voyez-vous, de nombreux psychologues s'accordent pour dire que les gens ont généralement une mauvaise image d'eux-mêmes. Et il y en a beaucoup plus que nous croyons, même chez les chrétiens. C'est pour ça qu'on va développer cette série de messages, marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'on va s'attarder ensemble sur notre identité en Jésus-Christ, pour vivre ce que je suis en train de vous prêcher. Là, c'est qu'une introduction aujourd'hui. On va prendre le temps d'approfondir cette thématique, ce fondement que Dieu veut poser dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Les psys non chrétiens remédient souvent à cette mauvaise image que les gens ont d'eux-mêmes en essayant de flatter le moi humain ou en encourageant les performances. pour ça qu'on retrouve beaucoup de gars à la salle de gym. Leur diagnostic est correct. Depuis la chute, l'homme souffre d'une mauvaise image de lui-même, l'homme, la femme. Mais voyez-vous, leur réponse est incorrecte. Le diagnostic est correct, mais la réponse est incorrecte. On ne réussira pas à aider quelqu'un à s'accepter lui-même en le flattant. Avez-vous déjà dit à une jolie jeune fille qui a une mauvaise image d'elle-même d'être heureuse parce qu'elle est belle ? Tu es belle, sois heureuse. Ça suffira pas. Hein. Ou tu es beau, sois heureux. Ça ne suffira pas. La valeur personnelle ne dépend pas de tes talents, de l'intelligence ou de la beauté. C'est une question d'identité. Nous trouvons notre valeur personnelle quand nous savons qui nous sommes. Un enfant de Dieu. Moi, j'ai trouvé ma valeur personnelle depuis que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Est-ce que ça a été suffisant quand je me suis converti il y a 27 ans pour devenir progressivement l'homme que je suis devenu ? Non ! J'ai eu à découvrir, à comprendre, à expérimenter, et encore, et je vais le faire, j'en suis sûr avec vous au travers de cette série de messages, à mieux discerner quelle est mon identité en Christ pour mieux vous servir, pour développer de meilleures et saines relations et saintes relations avec vous et avec mon prochain, pour ne pas me laisser attaquer par le menteur qui veut nous perturber, toi et moi, régulièrement. Pour ne pas laisser mon moi, cette vieille nature, qui essaye de revenir bien souvent à la surface, pour reprendre le dessus. Nous verrons dans les prochains messages les différents aspects de notre identité en Christ et la façon dont elle contribue à nous donner de la valeur. Alléluia ! J'espère que vous serez là, que vous allez être fidèlement là au prochain dimanche. Pour ne pas manquer, parce que si tu ne loupes pas un message, tu peux manquer peut-être l'essentiel à un moment. Et que non seulement tu vas être là, mais je le prie, je l'ai dit la semaine dernière, que nous allons oser, dans cette fin d'année, cette série de messages, inviter quelqu'un. Oser inviter un ami, un voisin, un collègue, un membre de la famille. Parce que si ces messages vont s'adresser à toi, ils vont aussi s'adresser à quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas Dieu. Et qui peut découvrir, imagine, s'il peut découvrir son identité en Jésus-Christ, combien ça peut changer radicalement sa vie, sa façon de penser et sa façon de se comporter. Et toi et moi, on s'en réjouira. Parce que c'est ça l'Église, des vies transformées. Des hommes et des femmes transformés. Pour ça, nous avons besoin, et dernier point, dernier effet du péché à long terme, si l'appartenance a été remplacée par le rejet, que nous avons besoin d'appartenir, de sentir que nous appartenons à quelqu'un, si nous avons besoin que notre valeur personnelle soit rétablie, l'autorité dont je vous ai parlé, vous vous souvenez ? Adam avait eu l'autorité de dominer sur toutes les créatures, lui et sa femme. L'autorité a été remplacée par la faiblesse et l'impuissance. Nous avons donc besoin de force et de maîtrise de soi. Nous avons besoin de force et de maîtrise de soi. Toutes sortes de méthodes sont utilisées pour tenter de combler le besoin de se dominer ou de dominer les autres. Certains dominent leur entourage en les agaçant ou en les harcelant. D'autres achètent de gros véhicules 4x4 avec d'énormes pneus et conduisent à travers la ville comme si le monde leur appartenait. Mais nous ne maîtriserons jamais notre vie. L'âme humaine n'a pas été conçue pour cela. Notre alternative sera toujours la suivante. Soit nous servirons le vrai Dieu, soit nous servirons le Dieu de ce monde. Tony et ton équipe, je vais vous appeler à revenir. On va terminer. Nous devons comprendre, vous devez comprendre avec moi ce matin, dans cette introduction, que tout comportement pécheur découle des mauvaises solutions que nous trouvons pour combler ces besoins fondamentaux. Ce besoin d'appartenance, ce besoin d'autorité, ce besoin d'innocence. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, aujourd'hui, dans notre société, les choses n'ont pas changé depuis le commencement. Essayent de trouver des solutions pour combler ces besoins fondamentaux. La question principale est la suivante. Pour aujourd'hui, on va terminer avec ça. Allons-nous permettre au monde, à la chair ou au diable de satisfaire nos besoins? Ou allons-nous laisser Dieu subvenir, nous dit la parole de Dieu, subvenir à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ? Ça, c'est une question d'identité et de maturité. Et je ne veux pas aller plus loin ce matin, mais j'aimerais que l'on prie ensemble. Peut-être qu'on n'a jamais fait ça. Prie ensemble, oui. Mais prie ensemble pour que peut-être Dieu te révèle mieux ton identité en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui et dans les semaines qui vont suivre et les prochains messages. De prier que cette série de messages qui sera prêchée par moi et par d'autres puisse également avoir un impact dans l'Église, quelle que soit la tranche d'âge, et auprès des personnes nouvelles que nous allons amener en cette fin d'année. Alléluia! Parce qu'il y a un programme extraordinaire, il y a une invitation extraordinaire de Dieu, de dire quand vous allez trouver, quand vous allez comprendre, quand vous allez saisir pleinement votre héritage dans votre identité en Jésus, en moi, alors vous allez vraiment marcher en nouveauté de vie. Vous allez vraiment grandir. Vous allez vraiment progresser. Vous allez vraiment devenir ce que je veux que vous soyez, des personnes épanouies. Pas des vaincus. Des vainqueurs, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des combats. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des luttes. Qu'on n'aura pas encore des défis à relever ensemble, bien sûr. Mais nous aurons une toute autre perspective pour les affronter. Alléluia. On va se lever ensemble et on va prier ensemble. Que Dieu m'inspire. Que Dieu inspire les autres qui vont prier. Mais que Dieu aussi vous inspire. Se révèle à votre cœur. À des jeunes, à des ados qui seront ici parmi nous. À des aînés. À des personnes qui trébuchent, ont du mal, se voient qu'il y a grain de sable. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie chrétienne? Comment se fait-il que je n'avance pas? Je me vois pas progresser. Oh, que Dieu se révèle à notre frère, à notre sœur. Nous souhaitons ensemble une église en bonne santé. Et la bonne santé passe par une compréhension de notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas le mal, tu n'es pas le mal. Un enfant de Dieu n'est pas le mal. Un enfant de Dieu peut avoir une mauvaise conception, une conception erronée, bien sûr, de qui il est. Mais Dieu veut la réajuster. Alléluia. Père, nous te prions ensemble. L'Église de Mans te prie ensemble. Ce matin, pour que tu puisses, Seigneur, te révéler, comme nous l'avons chanté précédemment. Esprit de révélation, viens nous révéler véritablement notre identité en Jésus-Christ. Viens confirmer des choses que nous savons. Viens, Seigneur, éclairer des choses que nous avons besoin de comprendre. Parce que nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous voulons être des marcheurs pour Jésus-Christ. Alléluia, nous voulons avancer, progresser dans la vie chrétienne. Nous voulons vivre une maturité dans notre vie et dans nos relations, les uns avec les autres. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Père. Tu veux te révéler, Seigneur, à des personnes nouvelles qui viendront dans ce lieu. Tu veux, Seigneur, accompagner, Seigneur, et fortifier mon frère, ma sœur, qui peut-être marche avec toi depuis des années, mais qui n'a pas compris quelque chose, ou qui n'a pas saisi, ou qui s'est laissé voler quelque chose de son identité. Je prie au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu, par ta parole, par les enseignements, par des dons, nous communiquer des paroles de vie et de victoire. Qui vont permettre à chacun de tes enfants, quel que soit son âge, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son rang social, à marcher en nouveauté de vie, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et c'est ainsi ton Église, dans nos familles respectives, dans nos foyers, dans nos couples, nous vivrons des victoires. Nous verrons un fruit à ta gloire. Nous serons des témoins à renouveler d'une autorité spirituelle. Dans le nom de Jésus. Amen.